je vous encourage pour les cultes personnels de cette semaine à prendre les notes des versets que je vais vous citer. Ce n'est pas pour vous embêter, c'est parce que ce n'est pas possible que nous retenions certaines choses si juste nous les écoutons une seule fois. Alors, c'est sérieux, c'est peut-être pour vous, mais c'est peut-être pour quelqu'un que Dieu va mettre sur votre chemin, un fils prodigue. Alors, s'il vous plaît, faites-le, je ne vous le dis pas pour, vraiment, je le répète pour vous ennuyer. Je le dis parce que ce sont des choses qui m'ont été vraiment révélées par le Seigneur et je crois qu'il faut que nous les retenions. On va le voir ce texte, l'importance de retenir. Comment retenir si on ne le note pas? En plus, on a la possibilité d'écrire, d'avoir du papier, d'avoir des crayons. On a appris à lire, à écrire, c'est des grâces tout ça. Alors, un livre dans le prophète Jérémie. Jérémie va exprimer une prière. Il va exprimer des... Vous savez, des fois, on exprime des choses quand on se tient devant Dieu. Jérémie, chapitre 6, verset 14. Il parle des pasteurs qui font les choses à la légère. Il y a beaucoup de superficie aujourd'hui, de superficialité dans l'Église, dans les Églises. L'apostasie en est responsable, bien sûr. Jérémie, chapitre 6, il fait ce reproche terrible... Et c'est exactement ce qui se passe. Jérémie chapitre 6, verset 14, « Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. » Au chapitre 15, au verset 18, il est dans un moment, c'est un pasteur, mais c'est un chrétien comme vous et moi. Et il se pose des questions. Il se pose des questions, il ne comprend pas, il ne comprend pas. Jérémie chapitre 15, verset 18. C'est peut-être une prière que vous pouvez faire ce matin, que vous faites depuis peut-être des mois. Regardez ce qu'il dit. Jérémie 15, 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veulent-elles pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Vous voyez, il parle à Dieu. Alors on pourrait dire, oh là, mais il ne va pas bien, Jérémie. Il commence à dire des choses à Dieu. Alors on verra tout à l'heure, si on a le temps, que justement il est en train de répandre son cœur devant Dieu. Il fait une prière vraie, parce que des prières superficielles, des prières qui ne servent à rien, il peut y en avoir. Mais Jérémie, c'est quelqu'un qui aime Dieu et il fait une prière, parce qu'il ne se plaint pas, il est en train, il veut guérir. Alors, regardez dans le psaume 41, David également, je parle souvent de David, parce qu'on peut facilement s'identifier à cet homme, parce qu'il a traversé tous les moments possibles et inimaginables. David est un homme vrai, il a fait des exploits, il a eu pas mal d'échecs aussi, mais il est vrai, il est toujours vrai devant Dieu. Et c'est pour ça qu'il a été un homme selon le cœur de Dieu. Il ne fait pas du cinéma. Au psaume 41, il fait une prière. Regardez bien. Psaume 41, verset 5. C'est le titre de ma prédication, « Guéris mon âme ». Psaume 41, verset 5. « Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme. » Vous voyez, il n'y a pas que le corps. « Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » Vous l'avez ce verset ? Je vous conseille de bien écouter cette prédication, surtout ceux qui sont malades dans leur âme. Guéris mon âme, c'est écrit, Dieu aurait pu se dispenser de parler des prières intimes de certains hommes, c'est quand même presque dans l'intimité qu'on est là. Guéris mon âme, cet homme, il reconnaît que son âme est malade, il a péché, alors la maladie ça peut venir du péché, mais ça peut venir aussi de bien autre chose, c'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. Alors on va lire ce texte, c'est pour ça que je vous demande d'écrire et de noter des choses et de les reméditer. Dans Luc au chapitre 8, il est parlé de cette fameuse parabole du semeur et des terrains. On m'a eu posé la question, mais c'est pour les païens ou c'est pour les chrétiens? C'est pour tout le monde, c'est une question du cœur. Le cœur du chrétien, le cœur du païen, peut-être que vous n'êtes pas sauvé, eh bien vous pouvez écouter avec un cœur tendre. Et vous pouvez être un chrétien, écouter avec un cœur dur. C'est une question de cœur. Regardez le quatrième terrain. Luc chapitre 8, verset 15. C'est important tout ce qu'on va voir. C'est pour ça que j'ai supprimé un peu de la louange pour qu'on ait le temps Parce que c'est des sujets qu'on ne peut pas aborder vite fait. J'ai pas envie qu'un jour Dieu me dise, pareil qu'à Jérémie, il pense à la légère, tu fais le travail n'importe comment dans l'Église. Luc chapitre 8, verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Regardez les deux conditions, enfin deux des conditions pour qu'il y ait du fruit. Il y a un cœur honnête et bon, et puis il y a cet aspect, ils la retiennent. Ils la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne retiennent pas, ils notent pas, ils écoutent, ils ont l'impression que la prédication, ça va atteindre son but tout seul. Non, on a chanté tout à l'heure le plan des hommes là, et des malins, ne peuvent pas m'arracher de sa main. Alors écoutez, c'est vrai. Mais on peut passer à côté de la bénédiction, même si on reste chrétien. On peut passer à côté de la guérison, même si on reste sous le sang du Seigneur, même si on reste dans notre position de nouveau-né spirituel, on peut quand même passer demander aux Hébreux dans le désert s'ils ne sont pas passés à côté de quelque chose. Et pourtant, c'était des chrétiens. Ils ne sont pas allés à l'enfer. Pas tous. Il y en a certains parce qu'ils étaient rebelles. Mais c'était des chrétiens. Ils sont restés dans le désert. Oui, ils auraient pu chanter les plans des hommes, les plans du malin, ne peuvent nous arracher de sa main. Oui, mais enfin, ils sont quand même passés à côté d'une belle expérience. Et le fait que nous ne retenions pas les choses, parce qu'on ne les marque pas. Je vais vous donner 4 ou 5 choses ce matin, mais je vous assure, mes frères et sœurs, cette semaine, je crois que le Seigneur m'a donné ce qu'il faut pour que plusieurs repartent vraiment guéris. Car si Dieu nous parle de guérison, c'est parce qu'il veut guérir. Dieu ne nous parle pas de guérison pour nous faire rêver. Dieu nous parle de guérison parce qu'il veut guérir. C'est pas compliqué. Si ce matin on aborde la guérison, il n'y a pas à faire, c'est la volonté de Dieu de guérir. Nous voulons être des guerriers pour le Seigneur, non? Il y en a qui voudraient être ici vraiment des sources de bénédiction pour les autres. Des instruments de paix. Vous savez, la Bible dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». C'est beau, ça. Est-ce que vous procurez la paix à votre épouse, à votre mari, à vos enfants, à vos amis? C'est ça la volonté de Dieu. Est-ce que je procure la paix? Oui ou non? Vous avez demandé à votre mari ou à votre femme? Si c'est le cas, c'est ça la volonté de Dieu. Un chrétien, il doit. Bien sûr, on a des hauts et des bas, je le sais. Mais mes frères et sœurs, nous devons être des sources de bénédiction. Et voyez, Jérémie, il est là, mais pourquoi m'appeler? Ne veut-elle pas se guérir? Pourquoi je suis toujours dans la douleur, etc., etc. Les plaies, il y en a des plaies, non? Il n'y en a pas des plaies. Il y a des petits bobos, mais il y a des gros, gros, gros bobos. Ouais. Comment se fait-il que ma plaie ne guérisse pas? C'est ce que Jérémie a dit. Comment ça se fait? Peut-être que vous dites, mais moi, ça fait des années que je suis déprimé, ça fait des années que ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma plaie ne veut-elle pas guérir? Vous savez, Dieu regarde au cœur. Vous le savez. Dieu regarde au cœur. Ce matin, Dieu regarde votre cœur. Et Dieu sait dans quel état vous êtes. Si vous pouvez dire comme David, mais Seigneur, oui, ce matin, je suis venu t'adorer, je suis venu apporter mon offrande, je suis venu chanter, je suis venu pour la communion fraternelle, mais ma prière, elle est là, guéris mon âme. J'ai besoin d'un véritable remède. C'est sérieux. Moi, je vous dis, il y a des chrétiens, ça fait 10 ans, vous les voyez, ils n'ont pas fait un progrès. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas qu'ils ne fassent pas de progrès, c'est qu'ils n'ont pas fait la prière vraiment du cœur, guéris mon âme. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire les choses à la légère. Seigneur, guéris-moi, ça ne va pas, j'en ai marre, je suis crevé, tu vois, Seigneur, fais quelque chose. Mais vous croyez que ça marche comme ça? Non, mais ce n'est pas sérieux, ça. Ce n'est pas sérieux. Oui, c'est pour ça que volontairement j'ai pris ce texte où Dieu reproche au pasteur de soigner à la légère. La superficialité, je peux vous dire, ça fait partie de notre siècle. L'apostasie, j'en ai parlé. On est dans ce monde de légèreté, je peux vous dire. C'est pas bon. Mais porter du fruit, c'est quelque chose de sérieux. Alors, est-ce que nous voulons permettre à Dieu d'aller en profondeur dans notre vie? Est-ce que, vous savez, des fois quand on va voir le docteur, on est obligé, quand on voit certains bilans, d'accepter des choses difficiles, oui ou non? Ça vous est jamais arrivé d'aller chez le docteur et qu'il soit obligé de vous dire, il y a ça? Vous n'avez pas dit, oh le docteur, ouais, docteur, ils sont pas bien, ce docteur. Ça vous est jamais arrivé d'aller chez un docteur qui vous dise, vous avez ça? Vous avez intérêt à faire attention. Faut mettre des lunettes. C'est pas les autres qui vous butent. C'est vous qui butez les gens. Il y a des gens qui s'imaginent que c'est les autres qui ne voient pas. Vous voyez ? Alors, ce matin, j'aimerais vraiment que, avant de prendre la Sainte-Cène, que vous puissiez comprendre ce qu'on va voir. Quatre situations. On va voir quatre réponses, mais d'abord quatre situations où l'on voit qu'il faut aller au fond des choses. La première, vous la trouverez, ne la cherchez pas, vous la trouverez dans 2 Rois au chapitre 6, versets 1 à 7. S'il vous plaît, vous lirez ces textes, vous les relirez, vous les méditerez, et vous verrez que le Seigneur, il veut faire les choses comme il faut. Vous vous rappelez, ces fils des prophètes qui avaient besoin de local plus grand, ils sont partis avec Élisée, et ils ont dit, voilà, ils nous font un local plus grand, puis chacun a loué une hache, l'autre a loué des scies, enfin, ils ont loué du matériel, et il y en a un qui était joyeux, il coupait un arbre, il n'a pas fait attention, la hache s'est démanchée, paf, c'est tombé dans le Jourdain. Vous connaissez l'affaire? Et le prophète a posé la question à ce serviteur. Où est-il tombé? Vous savez aujourd'hui ce qu'on ferait? Écoutez, ne riez pas. Hein. Ça va peut-être vous faire rire, mais ne riez pas. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on ferait? Mais tout le monde, hein? Ah, où tu l'as loué, notre truc? Tu l'as loué à Castorama, Kiloutou? Mais tu vas y aller, tu vas leur dire. Hein. Et tu ne payes pas. Parce que l'outil est de même problème. Tu vas leur dire, qu'est-ce que c'est ce travail? C'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui? C'est toujours les autres. Ouais, ça fait 3 fois d'ailleurs que je vais à Kiloutou, j'ai loué mon appareil, chaque fois il y a un truc à foirer. Ouais, c'est la faute des autres. Si ça va pas, c'est la faute de l'Église. On le sent, ça. Oui, je suis déçu de l'Église. Les plans du malin. Vous savez, Jésus, quand il est venu sur la terre, il a dit, je bâtirai mon église. L'église, c'est son église. Elle est à lui. Il a versé son sang pour bâtir l'église. Et je peux vous dire qu'on est loin d'imaginer toutes les ruses de Satan pour nous mettre contre Dieu. On croit, nous, parce qu'on voit les grosses peaux de bananes, là, on se dit, là, je ne me ferai pas piéger par ça. Moi, j'ai du discernement. Mes frères et sœurs, on est loin de s'imaginer combien le diable est rusé. L'Église, il faut l'aimer. Et Élisée a dit, où est-il tombé? Et la première des choses, si on veut guérir, c'est d'être honnête. C'est de dire, où c'est que ça a commencé? Vous vous rappelez, dans l'Apocalypse, à l'Église d'Éphèse, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi, ça veut dire, rappelle-toi, mais qu'est-ce que c'est qui a fait que ça s'est mal passé? Comment ça se fait que dans ton couple, à partir de ce moment-là, il y a eu du découragement? Où est-il tombé? Il faut savoir se responsabiliser. Il y a des gens, dès qu'ils ont un problème, je vous dis, ils accusent le gars qui a loué la machine, ils accusent l'église, ils accusent le pasteur, ils accusent tout le monde, n'importe qui, le président, le ministre. Bon. Mais c'est vrai, c'est pas vrai. Mais mes frères et sœurs, c'est pas comme ça qu'on guérit. On guérit quand on est honnête. Les problèmes, s'ils sont là dans l'âme, il faut dire, Seigneur, guéris mon âme. Quand est-ce que j'ai commencé à être égoïste? Pourquoi j'ai commencé à être égoïste par rapport à ma femme? Pourquoi je ne l'aide plus? Alors qu'au début, je l'aimais, j'aurais été à 3h du matin chercher une glace au chocolat de l'autre bout de Toulouse. Parce... Est-ce que ce n'est pas vrai? Quand vous étiez amoureux, votre femme à 3h du matin vous aurait dit, « Oh chérie, va me chercher une glace au chocolat de l'autre côté de Toulouse. » Est-ce que certains, vous ne l'auriez pas fait? Est-ce que ce n'est pas vrai quand on est amoureux qu'on est capable... Oui ou non? Et pour comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on prie, Seigneur, guéris mon âme, il faut qu'on soit honnête. Souviens-toi. Souviens-toi où tu es tombé. Mais qu'est-ce que c'est qui a fait que tu es devenu paresseux? Les gens, ils sont paresseux, ils ne servent plus Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Où ça s'est passé? Eh bien, il faut le déposer. Le miracle. Il ne s'est pas fait parce que l'autre dit, oui, tu sais, je... Non, il faut dire, voilà, ça s'est passé là. J'ai commencé à me décourager là parce que j'ai eu un conflit avec tel frère. Je me suis disputé avec un frère et ça a mis de l'amertume dans mon cœur. Eh bien, je vais aller voir le frère et je vais lui demander pardon. C'est ça, mes frères et sœurs. C'est comme ça qu'on guérit. Confessez les péchés les uns aux autres et vous serez guéris. Il y a une personne qui est venue, il n'y a pas longtemps. Elle est venue, elle me dit, voilà, monsieur Gau, je veux venir dans votre église. Écoutez bien, c'est des témoignages, ce n'est pas pour critiquer la personne, bien loin. Elle me dit, voilà, je viens parce que, voilà, dans l'église où je suis, il y a ci, il y a ça. Mais bon, elle me dit, ça fait combien que vous y êtes, hein? Ah, elle me dit, ça fait 20 ans. Et vous avez attendu 20 ans pour partir? Vous êtes sûr que c'est ça? Et j'allais lui dire, non, elle me dit, non, j'ai un problème avec un ancien. Je me suis fâché avec un ancien et j'ai fui. Eh bien, j'ai dit, vous voulez venir ici? C'est bien. Mais vous allez voir l'ancien. Et vous allez voir le pasteur. Vous lui demandez pardon. Et cette femme l'a fait. Elle a été bénie. Et il y a des chrétiens aujourd'hui qui font toutes les églises, qui font le tour du monde, qui font tous les séminaires, parce qu'ils espèrent trouver le pasteur qui a une onction, qui amènera la guérison. C'est de la magie, ça. Et ce n'est pas comme ça que Dieu guérit. Dieu guérit quand on dit, mais souviens-toi, où c'est que ça s'est passé? Quand est-ce que tu as commencé à déprimer? Quand est-ce que tu as commencé à picoler? Ah ouais, y a des chrétiens qui se font piéger par l'alcool. Quand est-ce que tu as recommencé à? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous croyez que le Seigneur est capable de nous le montrer? Oui, moi je le crois. C'est un cas que ça vaut la peine d'y réfléchir. De vous mettre devant Dieu, de dire, Seigneur, oui, tu vas me guérir. Tu vas guérir mon foyer, quand je vois ce qui se passe dans les foyers. Deuxième situation, c'est dans 1 Roi au chapitre 17, verset 18. Une femme se trouve dans l'épreuve. Une femme, elle a perdu, bon, c'est vrai qu'elle a eu la maladie de son fils, puis après, elle perd son fils. 1 Roi 17, verset 18. Ne le cherchez pas. Et quand elle voit arriver le prophète, regarde, elle dit, oh, remarquez, c'est ça, on va lire juste le verset. Un roi 17, 18. Mais regardez, il faut lire ces choses, mes frères et sœurs. Il faut le lire. On lit des fois, mais on ne s'arrête pas. C'est pour ça qu'on n'est pas guéri. Un roi, chapitre 17, verset 18. Regardez ce qu'elle dit quand elle voit Élie arriver. C'est drôle, en plus, on ne lui a rien demandé. Mais surtout, rien demandé. Et cette femme, regardez. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa femme vit. Sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Vous vous rendez compte? Le souvenir de mon iniquité. Il y avait un problème dans sa vie. On ne sait pas ce que c'est. Personne ne sait ce que c'est. Un problème qu'elle n'avait pas réglé et qui la faisait souffrir. On ne sait pas quelle a été sa faute. Mais quand elle voit le pasteur arriver, « Es-tu venu me rappeler le souvenir de mon iniquité ?» C'est elle qui en parle, personne ne lui demande. Peut-être qu'elle a fait un rapport avec la maladie de son fils, elle a dit voilà, c'est dû à ça, et il y a des gens qui vivent dans une fausse culpabilité, ils ont besoin vraiment d'une victoire. On va voir les solutions. Un sentiment d'injustice, on a tous subi de l'injustice, oui ou non? Dans tous les domaines, même dans le domaine du foyer. Des fois, on a eu le sentiment de vivre de l'injustice avec son conjoint, avec ses enfants, avec son patron, avec son pasteur, avec l'église, etc. Et on n'arrive pas à l'évacuer. Es-tu venu me rappeler le souvenir de mon iniquité? Alors que le prophète, il venait pour la bénir. Et il y a des gens, ils vivent continuellement dans une fausse culpabilité. Troisièmement, l'expérience de la femme samaritaine. Jean chapitre 4. Vous connaissez cette histoire, c'est une histoire merveilleuse. Jésus va au bord du puits, il veut voir cette femme. Vous connaissez l'histoire de la Samaritaine. Il va voir cette femme. Cette femme, elle est dans une situation un peu compliquée, puisqu'elle a eu cinq maris. Est-ce que c'est compliqué? Ça doit être compliqué. Elle a eu cinq maris. On ne sait pas pourquoi, en tous les cas, elle a divorcé ou elle a été veuve cinq fois, on ne le sait pas. Enfin, elle a traversé quelque chose de difficile. Mais quand même, Jésus va vers elle. Je ne pense pas que cette femme aurait été d'elle-même vers Jésus. Jésus va vers elle. Pourquoi il y va? Pour la bénir, pour la sauver. Jésus lui parle de l'eau de son puits. Elle lui parle de l'eau du puits de Jacob, etc. Et au bout d'un moment, Jésus lui dit, mais moi j'ai une eau que tu ne connais pas. Et elle lui dit, écoutez bien. Elle lui dit, mais donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. Et quelle est la réponse de Jésus? Jésus lui dit, appelle ton mari. Jésus lui propose de boire de l'eau. Au moment, il dit, mais donne-moi de cette eau. Et Jésus lui dit, appelle ton mari et viens. Alors la femme répondit, je n'ai pas de mari. Mais par contre, elle vivait avec quelqu'un. Vous vous rappelez de cette histoire? Alors Jésus lui dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Qu'est-ce qu'il lui dit? Eh bien, va le chercher. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est écrit comme ça? Mais ça veut dire que oui, Jésus veut nous rafraîchir. Et Jésus veut nous guérir. Et Jésus veut nous désaltérer. Mais d'abord, il faut régler certains problèmes. C'est pour ça que j'ai parlé des œuvres de la chair, sont la magie, etc. Parce que les gens, ils s'imaginent, Seigneur, guéris-moi, ça va pas, j'en ai marre, guéris-moi. Non! Appelle ton mari. Mets ta vie en règle. C'est ça que ça veut dire. Mets ta vie en règle. Je pense que beaucoup de chrétiens sont d'une légèreté, peut-être parce que les pasteurs, on est légers, je l'ai dit l'autre jour et je le pense. 50-50, hein, comme ça on est tous responsables, pareil. Ils pensent à la légère, la plaie de mon peuple. Venez à l'imposition des mains, on va prier pour vous, Dieu va vous bénir, venez à l'onction d'huile, venez, ça va vous faire du bien. Allez, c'est léger ça, c'est sérieusement. Vous ne trouvez pas que c'est un peu léger? Croyez-moi, Jésus voulait guérir la Samaritaine. Jésus voulait bénir la Samaritaine. Mais il fallait qu'elle aille au fond des choses. Oui, je suis dans le péché. Appelle ton mari, appelle ta femme, règle ça, demandez-vous pardon. Il y a des gens qui sont allés au divorce pour ne pas avoir voulu se demander pardon. Ça fait peine. Et le quatrième texte, c'est le fils prodigue. Luc chapitre 15. Il faut savoir rentrer en soi-même. Le fils prodigue, il est parti. Il est parti parce qu'il était un pétard contre son père et surtout contre son frère. Voilà, il y a des gens comme ça, ils quittent les églises. C'est l'image des gens qui quittent les églises. J'aime pas trop le mot parce qu'il ne me plaît pas, mais enfin, ils rétrogradent, ils se font piéger. C'est une erreur de jugement. Quand il a dit, donne-moi ma part d'héritage, et voilà, on appelle ça une erreur de jugement. Et il y a plein de gens qui font des erreurs de jugement. Il y a plein de frères et de sœurs qui devraient être au milieu de nous dans les églises de France aujourd'hui. Et croyez-moi, ils n'y sont pas parce qu'ils ont fait exactement la même erreur. Mais il est dit, à un moment donné, vous connaissez l'histoire, il est rentré en lui-même. On peut le lire quand même parce que c'est comme ça qu'un homme est béni. Il n'a pas dit, je vais rentrer et je vais leur dire ce que j'ai à leur dire, le frangin. Frangin, quel hypocrite! En plus, c'est vrai, c'est le frangin était aussi rétrograde que lui. Mais lui, il était resté à l'église. Luc 15, verset 17. Il en avait marre de manger des carouges. Vous rendez compte, les cochons, ils mangeaient. Alors, en plus, ça représente l'impureté. Il mangeait des potirons, j'en sais rien. Et lui, il ne pouvait même pas. Mais des fois, il faut traverser des moments difficiles. C'est dommage, mais c'est comme ça. Luc 15, verset 17. Étant rentré en lui-même. Il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Vous voyez, c'est le fait de se lever, c'est-à-dire qu'il y a une décision. Vous pouvez rester assis et prendre cette décision ce matin de dire, oui, il faut que je fasse ce que j'ai à faire. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il ne faut pas qu'on oublie que quand on pêche d'abord contre Dieu. Les gens, tout ça c'est léger, vous voyez. Ils ont menti, oh j'ai menti à ma femme, bon mais c'est pas grave, je lui demanderai pardon. Mais ils ne réalisent pas que le péché, c'est le péché qui a fait qu'on a crucifié Jésus. Notre péché. Mais le fils prodigue, il rentre en lui-même, il accepte d'aller au fond de sa conscience. Il dit, voilà ce que je ferai. Peut-être c'est ce que certains doivent dire ce matin, voilà ce que je dois faire. J'irai vers mon Père, j'irai vers mon Dieu. Ça ne va pas être des prières, Seigneur, je te loue parce que tu as fait ci, parce que tu as fait. Vous voyez, on a vite fait. Moi, le premier, je veux dire, de prier. Bon, je suis sincère, mais je veux dire, vous savez très bien qu'on peut faire des prières à l'église, passe-partout. Alors que Dieu attend vraiment des prières, guéris mon âme. J'en ai marre. Je guéris mon âme. Voilà ce que je ferai. Il accepte, enfin, je ne sais pas combien de temps ça a duré, il a tout gaspillé. Que de temps perdu. Que d'argent perdu. Il accepte. Et vous savez comment ça s'est passé? Il accepte. Il ne dit pas je vais rentrer. et je vais dire ce que j'ai à dire. Parce que vous avez vu le frangin, franchement, il est aussi rétrograde que lui. Quand il voit son frère arriver, il n'est pas content. Vous connaissez l'histoire, c'est vraiment pathétique. Comment il est, mais lui, il n'avait pas osé partir. C'est Jésus qui raconte ces histoires. Ce sont des enseignements, c'est pour notre instruction. Alors, quatre exemples qui nous prouvent qu'il faut aller au fond des choses. Alors, comment aller en profondeur maintenant? Maintenant, il faut voir quatre solutions. Il faut vraiment que nous apprenions ce qu'est la prière. On critique souvent les catholiques qui récitent le Notre Père. C'est pas vrai qu'on l'a fait ça? Allez, dites-moi. On l'a jamais fait un petit peu? Allez, dites-moi-le, baissez la tête, mais dites-moi-le. On l'a pas fait ça? On l'a pas fait des fois? De critiquer les gens qui faisaient des prières, on l'a pas fait? Eh bien, répondez-moi. Non? On l'a pas eu fait, plus ou moins. Mais quand même, ils récitent toujours le Notre Père. Mais franchement, vous ne croyez pas qu'il y a des Notre Père pentecôtistes? Des gens qui répètent toujours pareil. Et si on veut être guéri, il faut aller au fond des choses. C'est sérieux, la prière. Il prie, David, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Il ne fait pas du blablabla, c'est le roi, l'homme selon le cœur de Dieu. Il ne dit pas, bon, il faut que pour le protocole, j'en mette plein la vue à mes sujets. Non, il est droit. Alors après, ça peut se passer dans l'intimité, c'est pas la peine quand on est tous ensemble de répandre son cœur. Moi, je me rappelle une fois, Albi, il y avait un gars, il avait répandu son cœur. C'était par rapport à son intimité, c'était un truc de fou. Et moi, j'ai dit, mais tu ne veux pas prier comme ça. Mais lui, il avait fait de tout son cœur. C'était bien quelque part, mais il y a des choses, elles sont intimes, ça ne va de personne. La prière, c'est vraiment se mettre à nu devant Dieu, à découvert devant Dieu. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Tous vos besoins. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Tous vos besoins, tous, que ce soit le problème du travail, que ce soit le problème de la santé, que ce soit le problème du foyer, de votre intimité même sexuelle, je ne sais rien. Il faut dire les choses. Est-ce que Dieu peut nous aider dans tous les domaines? Mais oui, faites connaître à Dieu tous vos besoins, plutôt que de l'entendre dire, mais mon mari, il aurait pu deviner quand même. Hein? Ah bon? Parce que maintenant, il faut qu'on devienne des devins. Mais moi j'ai entendu ça. Des gens qui me disent, oh, il aurait pu deviner. Ou elle aurait pu deviner. Mais non. Il faut parler dans un couple. Ah non, mais moi, vous savez, ça fait que 32 ans que je suis pasteur, mais je vous avoue que j'ai entendu de ces trucs. Je pense qu'il faut dire les choses. Il faut les exprimer. Il faut les exprimer intelligemment, mais il faut les exprimer. Et pas réciter des prières par cœur, Seigneur, bénis-moi, bénis mes enfants. Ben, on peut le faire, ça, moi je le fais tous les jours. Je demande à Dieu qu'il bénisse mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants, etc. Je le fais avec foi. C'est peut-être les mêmes mots que j'utilise, plus ou moins, mais je le fais avec foi. Mais il faut prier vraiment et dire, voilà mon besoin, voilà ma souffrance. Vous croyez que Dieu va rester insensible? Non. Eh ouais. Qu'est-ce que c'est qui a provoqué cette dépression? Ça peut être un burn-out lié à un excès de travail. Bon, mais c'est pas grave, on se repose et on récupère. Oui ou non? Est-ce qu'on peut prendre une dépression parce qu'on a trop travaillé? Ben oui, c'est évident. Mais il peut y avoir une déprime parce qu'on a laissé s'installer des choses qui ne sont pas bonnes. Et la prière, si Dieu l'a donnée, c'est une bénédiction. Quand j'entends des chrétiens, vous savez, moi ça me fait de la peine. Hein? Pas par rapport à moi, mais par rapport à leur communion. Oui, la prière, ça ne sert à rien. Mais qui c'est qui l'a institué, la prière? Qui c'est qui a donné sa vie au calvaire pour qu'on puisse être en communion avec lui? Mais moi, je trouve que la prière, c'est un drôle de cadeau. Oui ou non? Vous ne trouvez pas que la prière, c'est une bénédiction? Moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte, n'importe où, n'importe quand, n'importe quel moment, vous pouvez prier. Moi, je trouve que critiquer la prière, c'est être tombé dans les griffes du diable. La prière, ça sera toujours une bénédiction. Vous savez, des fois, on commet des dégâts quand on parle. Oui ou non? Est-ce que ça peut arriver? Parce qu'on parle, on dit des bêtises. Oui. Mais des fois, on commet des erreurs en ne disant rien. Ce qu'on appelle les non-dits. Et c'est pour ça qu'il faut prier. Et dire, Seigneur, apprends-moi à me taire, mais apprends-moi aussi à parler. Pourquoi pas moi, mais je ne suis pas contre, alors je ne vais pas rentrer dans ce sujet, mais en fait, pourquoi on conseille les gens d'aller voir des psychologues? Parce que les gens ont besoin de parler. Après, bon, c'est autre chose. Hein. Mais la Bible est claire, faites connaître à Dieu vos besoins. Et quand Jérémie, c'est quelqu'un, Jérémie. Et quand il dit, mais pourquoi ma plaie ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi une source trompeuse? Moi, la première fois que j'ai lu ce texte, j'ai dit, mais Jérémie, il n'allait pas bien. Et franchement, il n'a pas peur de parler à Dieu comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va au fond des choses. Il y a des moments dans la vie, c'est vrai qu'il y a des gens, on ne sait pas s'ils se plaignent ou s'ils vont au fond des choses. Quand Dieu parle de Job dans son livre, il fait des reproches sévères à la fin à ses amis. Il dit, oui, tu n'as pas parlé avec droiture, comme a parlé mon serviteur Job, mais Job va prier pour vous et je vous relèverai. Pourtant, quand vous lisez les propos de Job, certains ne sont pas piqués des vers, excusez-moi l'expression. Quand tu dis, mais mon âme est dégoûtée de la vie, est-ce qu'il l'a dit ça? Il a dit, je suis dégoûté de la vie. Et pourtant, Dieu ne lui reproche pas. Vous me croyez? Pourquoi? Parce qu'il va au fond des choses. Et mes frères et sœurs, c'est grave de voir ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a un autre évangile. Et on est dans l'évangile de la distraction, du divertissement. Mais mes frères et sœurs, priez pour que les pasteurs soient inspirés. Moi, dans les notes, dans les annonces, je demande que vous priez pour moi. Parce qu'il faut prier pour que les pasteurs aient la pensée de Dieu et ne pas faire des trucs à la légère. Dieu veut guérir, on le chante, mais il ne faut pas que ça soit un chant. Je peux être guéri ce matin. Je vais prendre le pain et le vin. Oui, j'irai au fond des choses. Oui, j'irai demander pardon à ma femme. J'irai demander pardon à mon mari. J'irai demander pardon à mes enfants. Ouais. Mais oui, c'est ça la prière. Le Seigneur me fait grâce. Jérémie, il est honnête. Il prie de tout son cœur. Pourquoi ma plaie ne veut-elle pas guérir? Et pourtant, croyez-moi que c'est quelqu'un qui reçoit de la part de Dieu. Au chapitre 15, lisez que les 15 premiers chapitres et vous direz, mais cet homme, il a quand même été inspiré. Ce n'est pas parce qu'on est inspiré que tout va bien. Deuxièmement, après la prière, il faut savoir vraiment s'humilier. Vous connaissez 2 Chroniques 7:14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie. Alors là, j'ai mis la prière avant, oui, et l'humilité après. De toute façon, il faut d'abord de l'humilité. De l'humilité. Je guérirai son pays. S'il se détourne de ses mauvaises voies. Parce qu'il n'est pas dit, il y a 4 conditions. Il y a 4 conditions. Vous les connaissez? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Il y a 4 conditions. S'humilier, prier, chercher la face. Vous voyez, on peut prier et ne pas chercher la face de Dieu. On peut prier, mais ne pas. Il y a une grande différence entre parler à Dieu et chercher sa face, chercher son intimité. Il y a une grande différence. Les chrétiens, ils prient, mais ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne cherchent pas la face de Dieu. C'est un monologue. Ils récitent, j'ai prié une heure, ça va gazer, ça va plaire à Dieu. Non, c'est pas ça la prière. Et le gars qui cherche la face de Dieu, il va savoir ce qui ne va pas. Et il va s'en détourner, s'il veut. Je parlais l'autre jour d'Achipotel, de Saül, de Judas, ça ne s'est pas très bien passé pour eux. Ils ne se sont pas détournés quand Dieu leur a montré. Et souvent, on se contente de superficialité. La communion fraternelle, j'en ai souvent parlé, c'est un bienfait, la communion fraternelle. Dans 50 minutes, on va se congratuler, on va se faire le poutou de Toulouse. Tu vas bien, mon frère, tu vas bien, ma soeur, on va se prendre dans les bras. Est-ce que c'est bien? C'est bien, la communion fraternelle? C'est merveilleux. Je plains les chrétiens qui sont seuls dans leur ville ou leur village. Mais mes frères et sœurs, il n'y a pas que la communion fraternelle. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui agit lorsqu'on est sérieux. Pas qu'on se prend au sérieux. Il écoute la parole avec un cœur honnête. Il n'est pas là comme le gars, oui, je l'ai loué là-bas, je vais aller, il va m'entendre le type de chez Kiloutou. Vous voyez, on en est là, et c'est ça aujourd'hui. Les gens ne se rendent même pas compte. Je ne veux pas être superficiel. Si vous êtes superficiel, vous ne serez pas un instrument de bénédiction. Et vous serez frustré, parce qu'en vérité, quand on est chrétien, on a envie d'être un instrument de bénédiction. Moi, vous savez, dimanche, lundi, mardi, je pensais vraiment à ces guerriers de David. Je continue ma petite prédication dans ma tête, et j'ai compris que certains ne pourront jamais être des guerriers s'ils ne sont pas guéris. C'est impossible. C'est impossible. Alors on est là dans le superficiel, dans la légèreté. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben, on va se détendre. On a besoin de se détendre. Alors je suis pour la détente. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis pour la détente. On va se détendre. On a besoin de détente. Est-ce que vous aimez vous détendre? Oui, alors on va aller au cinéma, tiens. On va aller danser. Il y a des chrétiens, c'est ça. On va aller voir un bon film, on va aller au resto. On va se détendre. Mais le problème, il n'est pas réglé. Alors, je ne suis pas contre d'aller au restaurant. Je peux vous le prouver, d'ailleurs, si vous m'invitez. Je ne suis pas contre. Il n'y a pas de mal. Vous comprenez bien, il n'y a pas de mal. La détente, c'est une bénédiction, oui ou non? Si vous pouvez vous détendre, si vous pouvez vous payer un voyage ici ou là, mais bénissez Dieu pour tous les bienfaits. Bénissez Dieu si vous pouvez passer une semaine à l'île Maurice avec votre pasteur, par exemple. Mais bénissez Dieu. Vous comprenez, mais ça ne règle pas les problèmes. Ça ne règle pas les problèmes. Les problèmes, on les emporte. Je plaisante pour ceux qui ne me connaissent pas. La solution, elle n'est pas dans la détente, dans les loisirs, dans la légèreté. La solution, c'est de s'humilier devant Dieu. C'est biblique de la Genèse à l'Apocalypse. Accepter de se voir comme on est. Accepter de dire, oui, j'ai commis une erreur. Oui, oui, j'ai péché. David, il est honnête. J'ai péché contre toi. Lorsque Nathan le reprend après un an d'hypocrisie, il va dire, oui, j'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre toi seul même. Tellement il avait compris que c'était grave. Je me suis trompé. Est-ce qu'on peut le dire, je me suis trompé? Je veux dire, je me suis trompé devant mes enfants, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont penser que je suis minable. Vous croyez que vos enfants penseront que vous êtes minable si vous leur dites que vous vous êtes trompé? Moi, je ne crois pas. Acceptez de dire, oui, j'ai été injuste. Moi, plusieurs fois, je l'ai fait dans ma famille. Plusieurs fois, quand mes enfants me disaient, papa, tu sais, on trouve qu'il y a ça. Eh bien, vous avez raison. Première fois, j'ai dû aller à la salle, je pensais que j'étais bien pour mes enfants. Oui. Première fois, je me rappelle qu'on a fait un partage, on va dire ce qu'on pense l'un de l'autre. Moi, j'étais content, ils vont me dire comme les chrétiens, vous voyez. Chrétien, monsieur Go. Et puis non, papa, on te trouve irrité. Hein? Ouais, c'est pas bien. Papa, il y a ci. Oui, papa, au fait, il y a ça. Et à la fin, j'ai pleuré, je leur ai dit merci. Parce que je savais qu'ils m'aimaient et qu'ils voulaient mon bien. Et ma femme a ajouté la dernière couche. Mais à cause de l'orgueil, c'est ça, l'orgueil, les hommes ne veulent pas reconnaître. Ils ne veulent pas reconnaître leur péché. Et c'est un des signes de la fin, en plus, dans l'Église. Les hommes seront enflés d'orgueil. C'est écrit ou c'est pas écrit? On en a parlé l'autre jour. On ne veut pas être rabaissé, alors que la Bible dit que celui qui s'abaisse, il sera élevé. Mais pour vous dire combien on est bête, stupide et aveugle, on n'est pas capable de dire « je me suis trompé, pardon ». Et on a vu des couples qui ont explosé pour ne pas avoir su dire « je me suis trompé, je te demande pardon, j'ai honte ». Oui, celui qui s'abaisse, il sera élevé. Et l'humilité, il ne faut pas, vous voyez là aussi, « ah, mais moi je ne suis pas né comme moi, vous savez, moi je suis né avec un caractère dur, vous savez, je le tiens de mon grand-père, il était comme ça. » Non mais, l'humilité, ça s'apprend. Quiconque deviendra humble comme ce petit enfant. Quelle misère, quand on est capable de justifier sa dureté avec l'hérédité de Pépé. Non mais franchement, quelle honte. L'humilité, ça s'apprend, peut-être à genoux. Seigneur, apprends-moi l'humilité. Oui, quiconque se rendra humble. Humiliez-vous. C'est clair, rien que ces deux versets nous prouvent qu'un homme peut devenir humble et reconnaître qu'il s'est trompé. Voilà pourquoi plein de chrétiens ne sont pas guéris et se traînent et ne deviendront jamais ces guerriers spirituels, ne deviendront jamais ces sources de bénédiction, ces instruments de paix, parce qu'ils n'ont pas voulu s'humilier. Regardez, il y a un homme, mais non, ça va loin cette affaire. Moi, il y a un texte qui m'a bouleversé d'ailleurs. Regardez un roi 21. Mais vraiment, Akab, vous connaissez le roi Akab? Non, mais Akab, c'est un des rois les plus pervers qu'il y ait eu d'Israël. Hein? Il s'est marié avec une femme, une vraie sorcière. Oui, oui, c'est vrai, c'est sérieux. Une vraie sorcière, Jézabel. C'est un couple diabolique. Un despote. C'est vraiment l'incarnation du mal, ce couple. Regardez bien. Un roi 21. C'est pour ça que je vous ai demandé de prendre les textes. Alors regardez bien quand même. Un roi 21. Cet homme, c'est vraiment, franchement, il méritait que l'enfer, cet homme. Et Dieu vient lui parler avec beaucoup de sévérité. Regardez, 1 Roi 21, verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab, je vous assure, il était mal, déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps, il jeûna, il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Moi, j'ai du mal à croire que c'est vrai, oui, mais je sais que c'est vrai parce que c'est dans la Bible. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Dieu est tellement satisfait, il va voir Élie. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? On voit le cœur de Dieu, parce que Dieu se réjouit quand on est humble. As-tu vu, regardez, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Regardez bien. Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai devenir le malheur sur sa maison. Est-ce que vous vous rendez compte? Dieu est heureux. Pourquoi? Parce que quand on s'humilie, eh bien Dieu est heureux parce qu'il va pouvoir nous bénir. Ce n'est pas les 3 jours de détente qui vont nous bénir, même si notre corps peut se reposer un peu. Guéris mon âme. Akab, non mais vraiment, c'est la preuve que si Akab, ou je pense à Manassé, des rois mauvais, pervers, pas possible, ils ont été bénis, c'est parce qu'ils se sont vraiment humiliés, pas du bout des lèvres. Il y a des gens, ils s'humilient chaque dimanche, pardon Seigneur, pardon, je suis désagréable avec ma femme, pardon chérie, j'ai compris, je ne recommencerai plus, et 3 jours après, ils recommencent. Ils ne s'humilient pas, ils regrettent, c'est des regrets. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils disent, je ne comprends pas, il s'est humilié, ça ne marche pas. Non, il ne s'est pas humilié. Quand on s'humilie, Dieu fait grâce. Quand on s'humilie, il y a quelque chose qui se passe. Le cœur est changé. Dieu fait grâce aux humbles. S'il a fait grâce à Akab, s'il a fait grâce à Manassé et à d'autres, laissez-moi vous dire, ils ont été au fond des choses. Et regardez, c'est même Dieu qui va vers Élie. Vous vous rendez compte? Tellement Dieu, excusez-moi l'expression, mais Dieu est content. Avec un chrétien s'humilie, Dieu est heureux. Je ne sais pas si vous voulez qu'on réjouisse le cœur du Seigneur ce matin. Vous avez envie qu'on le réjouisse en fait? Eh bien, il faut que j'aille au fond des choses. Il faut que je m'humilie. C'est clair. Si vous voulez que le cœur de Dieu soit touché, il faut que nous nous humilions. Seigneur, je me suis trompé. S'humilier, c'est aller au fond des choses. C'est reconnaître son péché. C'est pas dire, oh, c'est pas grave, tout le monde fait pareil, tu vas pas me prendre la tête avec ça, tu me saoules. On entend ça aujourd'hui. On entend ça, moi je l'entends. Des chrétiens, des chrétiennes qui me disent, voilà, comment me parle mon mari, comment me parle ma femme. Mais c'est sûr que c'est pas comme ça qu'on va être guéri. Si ça fait mal à ses enfants, il faut arrêter. Si un comportement blesse son épouse, eh bien, il faut arrêter. On va dire, oh, c'est une chochotte. Non, mais vous savez, ça affaiblit l'Église. Comment pourra-t-il y avoir de vaillants guerriers, des gens en bonne santé spirituelle, si on n'est pas capable de dire, Seigneur, mais montre-moi ce qu'il faut faire pour que mon âme soit guérie. C'est un truc de fou, on chante des cantiques sur la guérison. Quand on a chanté... Christ sous ta main bénissante, il est beau ce cantique, Christ sous ta main bénissante, tu te plais à nous bénir, en fait c'est un cantique, franchement, ce cantique il est merveilleux, vous vous rendez compte, on chante un truc, on ne peut pas le vivre, parce qu'on n'est pas, on ne retient pas ces choses, on écoute, on ne retient pas, vous savez il y a un frère qui m'appelait l'autre jour de Brest, il avait un problème, un gros problème, et il m'a dit, voilà écoutez monsieur Gauche, j'ai écouté une prédication, je sentais que c'était pour moi, je l'ai écouté 5 ou 6 fois, à la 6e fois, je me suis mis à genoux et je demandais pardon à Dieu. Et je peux vous dire que cet homme, il a été béni. Je dis ça, pourquoi? Parce qu'il l'a retenu. Il n'a pas dit, ah c'est intéressant. Non, ceux qui retiennent la parole, ceux qui écoutent avec un cœur honnête. Oui, je suis malade. Je suis malade. Je ne parle pas de mes rhumatismes. Mon cœur est malade. Je le reconnais. Ça ne va pas. J'énerve tout le monde. Je fatigue toute ma maison. Est-ce que c'est normal, ça? Moi, de temps en temps, je demande à ma femme, ça va? Est-ce que je procure la paix dans la maison? Elle me dit, oui, ça va. Ou pas. Le troisième remède, c'est de confesser son péché. Vraiment de le confesser, parce que c'est bien de le savoir, mais c'est de le confesser. Jacques 5, 16, confessez les péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Voilà. Avoir cette honnêteté de dire j'ai péché, je t'ai menti, je te demande pardon. Est-ce que c'est important de confesser ses péchés? Les chrétiens, ils mentent, mais ils n'ont rien à faire. C'est grave. Est-ce que ça peut arriver de commettre un péché? Est-ce que ça arrive? Celui qui dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur, dit Jean. Mais si nous avons commis un péché, eh bien, on a commis un péché. Eh bien, approchons-nous du Seigneur, demandons-lui grâce, il est notre avocat, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, voilà. Ben, je vais demander pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon, je t'ai mal parlé. Vous voyez? Parce que l'humilité, ça amène du fruit. Il y a vraiment du fruit. Confessez vos péchés les uns les autres, afin que vous soyez guéris. Moi, j'ai vu une femme, Albi, ça m'avait choqué vraiment. C'est une femme, elle avait, je ne sais pas, 50 ans. Elle était toujours rabougrie. Toujours. Elle n'était pas encore baptisée. C'était une nouvelle, mais ça faisait quand même 2 ans ou 3 qu'elle venait. Elle était tout le temps triste, tout le temps. Même physiquement, elle était courbée. Tout le temps triste. Je voyais qu'elle aimait le plus en plus le Seigneur. Vraiment. C'est une femme, mais elle était toujours, toujours recroquevillée, toujours triste. Et un dimanche, j'avais prêché sur le pardon. Elle était venue au culte, elle venait qu'à l'évangélisation. Elle était venue au culte. Puis elle est partie, l'après-midi, à 3h15, je me rappellerai toute ma vie. Je vois une femme rentrer dans l'église, super bien mise, bien coiffée, un petit peu maquillée, mais sobre, vous inquiétez pas. Mais elle était belle. Elle m'a dit, Monsieur Gros, il faut que je vous parle. Ce matin, quand vous avez prêché sur le pardon, sur l'amertume, j'ai compris qu'il fallait que je téléphone à mon gendre pour lui demander pardon. Il a fait souffrir ma fille. Ma fille a souffert pendant des années jusqu'au divorce. Et j'avais une haine pour mon gendre comme c'est pas possible. Écoutez-moi, mot pour mot, je suis arrivé à la maison. Quand j'ai pris le téléphone pour demander pardon à mon gendre, Dieu m'a guéri. Elle n'avait même pas demandé pardon. Elle a pris le téléphone. Quand elle a fait le numéro, le Seigneur l'a guéri. Confesser les péchés. Elle avait de l'amertume. Alors, on peut le justifier. Ouais, mais c'est sa faute. Mais si Jésus avait dit, c'est leur faute, ils ne seraient jamais venus. Sur la croix, on l'a crucifié. Cloué. Couronné d'épines. Flagellé. On l'a insulté. Et la première parole qui dit, pardonne-leur. Je comprends que les soldats, ils ont dû dire, mais qu'est-ce que c'est ce type? Nous, des fois, nous marchons sur l'orteil. Il y en a pour 15 jours, à peu près. Cette femme, elle a été guérie. Pourtant, elle avait raison d'avoir de l'amertume. Vous avez compris ce que je voulais dire, hein? Elle était malheureuse parce que sa fille avait souffert des années à cause de la méchanceté de son gendre. Mais elle savait qu'il fallait qu'elle lui demande pardon. Et elle a été guérie. Instantanément guéri. Et si vous avez la colère contre quelqu'un, mais demandez-lui pardon. Dites-le lui, je suis en colère contre toi, je tiens à te demander pardon parce que cette colère, je ne veux plus l'avoir. Oui, Dieu guérit, mes frères et sœurs. Le quatrième remède, vous le trouverez dans Ésaïe au chapitre 5. J'ai pris ce texte, il y en a d'autres. Mais regardez avec moi, dans Ésaïe au chapitre 5, on voit que notre vie est comparée à une vigne. Vous le savez ça dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait pour que cette vigne produise? Si vous lisez bien, la vigne ne va pas bien. La vigne ne va pas bien, il faut qu'il se passe quelque chose. Alors regardez, Ésaïe chapitre 5, verset 1er. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Qu'est-ce qu'il a fait? Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve. Voyez, alors, on voit ce vigneron qui a le souci de ce que sa vigne porte du fruit, un peu comme le pasteur qui a envie que l'église porte du fruit, mais surtout le Seigneur. Mais notre vie est comparée à une vigne, mais pensons à notre âme, pensez à votre âme, d'accord? À votre vie, à votre couple, à votre foyer, à votre famille, à votre vie. Quel est l'état de votre vigne? Vous allez des fois, vous avez déjà vu des vignes, c'est magnifique des vignes, non? Vous avez déjà vu des vignes super entretenues, super taillées, c'est magnifique à voir. Vous le voyez? Moi j'ai vu des vignerons, j'ai vu des reportages, alors je vous assure, vous comprenez pourquoi le vin est bon. Hein? Sérieux? Vous comprenez pourquoi? Parce qu'ils ont fait exactement, ils étaient amoureux de leur travail. Dieu, il nous aime et il sait ce qu'il faut faire pour qu'on porte vraiment du fruit. Mais la question, elle est là. On va prendre le pain et le vin. Dans demi-heure, le culte va se finir. Voilà, on va rentrer à la maison. Mais dans quel état je suis? Quel est l'état de ma vigne? Quel est l'état de mon cœur? Je ne parle pas du cœur, du muscle. Quel est l'état de ma vie intérieure? Il faut que j'aille en profondeur. La vigne, c'est pas juste, bon, ben, on va arroser, on va mettre un peu de bouillie bordelaise, peut-être que ça suffira. Vous avez vu ces vignes où ils mettent des rosiers devant chaque rangée? Vous avez vu? Je me souviens la première fois où ma femme a vu ces rosiers. Mais t'as vu ce vigneron? Il est formidable. Il m'a dit, et c'est vrai que cette vigne était devant chaque rangée de vignes, il y avait un rosier. Un beau rosier, taillé et tout. Et je lui ai dit, mais tu sais, non, c'est pour les maladies. Parce que le mildiou, le rosier l'attrape avant la vigne. Alors quand le rosier attrape le mildiou, on soigne la vigne. Comme ça, la vigne ne l'attrape pas. C'est pour ça que des fois, vous verrez des rosiers dans des vignes. Ce n'est pas parce que le gars, il veut fleurir sa vigne. Mais voyez, parce que le gars, il a le souci. Mais il y a des choses qui devraient nous alerter, oui ou non? Il y a des comportements, des paroles, des réactions qui devraient nous alerter. C'est pire que le mildiou. Ça ne se voit pas, c'est sous les feuilles. Mais ça y est. Peut-être, oh, c'est pas grave, tu ne prends pas avec ce que je vis au boulot. Si tu étais à ma place, tu ferais pareil. La maladie, elle est là. Il va falloir travailler le terrain de nouveau. Remuer le sol, remuer les pierres, sarcler la vigne, enlever ce qui ne va pas, remuer le sol. Oui, il va falloir mettre une barrière tout autour, une tour pour avoir une citerne, etc. Quel est l'état de ma vigne? Et Dieu, il dit qu'il remue le sol. Dieu veut du fruit. Mes frères et sœurs, Dieu veut du fruit. Il faut être remué par Dieu. Lorsqu'on vient à l'église, ce n'est pas pour écouter une prédication. On vient dire, mais Seigneur, remue mon cœur tout à nouveau. Est-ce qu'un cœur n'a pas besoin d'être remué ce matin? Seigneur, mais remue-moi tout à nouveau. Remue mon cœur, que je, quand je vais relire, tiens, le livre d'Ésaïe, parle-moi. Tu as touché les lièvres d'Ésaïe, mais touche les miennes aussi, que je réapprenne à parler. On ne peut pas remuer que la surface. Vous savez, les réunions, souvent, je le dis, les réunions, souvent, c'est on remue la surface, c'est une petite prédication, voilà, c'est intéressant. Oui, c'est bien. Parce que Dieu, il sait remuer. Il le dit dans Deutéronome 32, verset 39, « Je suis celui qui blesse et je suis celui qui guérit. » Il faut accepter cela. Est-ce qu'il y a une ouverture ce matin dans mon cœur? Est-ce que mon cœur est ouvert? Est-ce qu'il y a cette blessure qui permet à Dieu de commencer à remuer les pierres? Tiens, il y a cette pierre. Les pierres, ça ne se voit pas. C'est ce qui est caché dans le sol. Ouais. Ou est-ce qu'on va continuer à dire, mais vous ne comprenez pas, avec ce que j'ai vécu, si vous saviez comment j'ai souffert, si vous saviez l'éducation que j'ai eue, mais si vous saviez comment j'ai pleuré toute ma vie. On entend des gens. Mais c'est normal, vous comprenez. C'est comme ça, j'ai manqué de tout, toute ma vie. J'avais rien, on n'avait pas un rond à la maison. Alors maintenant, je gaspille, je dépense parce que je me défonce. Ah ouais? C'est comme ça que Dieu va nous guérir? D'autres, c'est l'inverse. Ah, moi, j'ai besoin de rien, j'ai tout reçu. Vous avez vu l'église de l'Odyssée qui dit « j'ai besoin de rien » Parce que justement, Dieu peut vous avoir béni. Peut-être que vous avez un bon salaire, vous avez une belle maison, vous avez une belle voiture toute neuve, je ne sais pas. Est-ce que c'est bien tout ça? Je l'ai dit tout à l'heure, oui. Mais on peut manquer de choses intérieures. Et dire, Seigneur, moi, je suis prêt à ce que tu me blesses. Je suis prêt à ce que blesser, Dieu ne va pas nous blesser bêtement. Ça veut dire, je suis prêt à ce que Dieu crée de nouveau une ouverture, comme un abcès, il va falloir que le scalpel il passe dessus pour qu'il y ait la guérison. Et je pense pour terminer, que ce qui manque à beaucoup de chrétiens, c'est de se retrouver seul, comme Jacob, qui s'est retrouvé seul un jour. Je crois que c'est dans Genèse 32, il s'est retrouvé seul, tout seul. Il a renvoyé tout le monde. Il avait besoin de se retrouver seul, et vous remarquerez que c'est là que Dieu l'a blessé, puisqu'il y a des mille anges, vous connaissez l'affaire, et c'est là que Dieu l'a béni, et qu'il a dit, tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Ça, est-ce que ça valait le coup qu'il soit blessé? Toute sa vie, il a boité. Vous connaissez toute sa vie, même à la fin, regardez, c'est quand même, c'est pour ça qu'il faut, je le lis pour que vous appreniez mieux à lire la Bible. Regardez dans Hébreux, ah, il n'a pas été guéri physiquement. Voyez, regardez, cet homme qui a été, mais un trompeur, un magouilleur. Presque toute sa vie, ça a été un magouilleur. Oui ou non? Regardez Hébreux 11, 21. Parce qu'il y a des gens qui ont magouillé, mais il faut voir comment ils terminent. Ils terminent, regardez avec moi, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il termine comment? Hébreux 11, 21. Mais vraiment, je ne sais pas si vous avez envie de terminer comme ça, en tout cas moi oui. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun de ses enfants, chacun des fils de Joseph, et qu'il adora, bon, la suite, ça pourrait ne pas être dit, mais c'est dit, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Ah, peut-être qu'il n'a pas été guéri physiquement, mais laissez-moi vous dire qu'il a été guéri spirituellement. Oui ou non? Ce trompeur, Jacob, ça veut dire le trompeur, ce magouilleur, vraiment ce calculateur, lisez son histoire. En plus, Dieu s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc si Dieu s'appelle le Dieu Jacob, il peut être votre Dieu, croyez-moi. Mes frères et sœurs, il a commencé, mais vraiment comme un tordu. Il finit en prophétisant, en adorant. Il est toujours blessé physiquement. Dieu l'a voulu, c'est quand même écrit, c'est écrit, il faut qu'on le comprenne. Appuyé, toute sa vie l'a boité. Chaque pas qu'il faisait, chaque pas lui rappeler cette expérience. Des fois, c'est bien d'avoir pris un bon carton, excusez-moi l'expression. Ça fait du bien, ça vous rappelle un peu que Dieu sait ce qu'il fait. Il blesse et il guérit. Vous n'avez pas envie de terminer en adorant, en bénissant les vôtres? Vous n'avez pas envie de terminer votre vie en bénissant vos enfants? Non? En bénissant les chrétiens? Chrétiens? Tu sais, lui, il m'a parlé mal. Ah ouais? Jésus est mort pour l'Église. Je veux mourir en bénissant les miens. Je veux terminer ma course en adorant. Même si je suis patraque, même s'il y a des blessures qui ont esquinté mon corps, c'est pas grave. Mon âme, je veux qu'elle soit bénie. Je veux aller au fond des choses. Je ne vais pas lire pour... Il y a des gens qui disent, oh, moi j'ai lu 3 chapitres aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez retenu? Rien. Alors c'est quand même bien de le faire. C'est comme si quelqu'un qui ne se rappelle pas qu'il a mangé un steak frites, c'est pas grave, il a quand même mangé, ça va faire son effet. Mais mes frères et sœurs, là on a une opportunité bénie. Oui ou non? Faites ceci, rappelez-vous. Prenez la Sainte-Seine, ce n'est pas la tradition de Pentecôte ou des protestants. Faites ceci à mémoire de moi. Rappelez-vous que ça, c'est la victoire au calvaire. Et que je peux être guéri. Je chante des cantiques. Oui, Christ, sous ta main bénissante, je veux me placer. Je veux être guéri. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être guéri ce matin? Guéris mon âme. Vous croyez que Dieu va dire, ah non, celui-là, oui. Si Dieu a béni Acab, si Dieu a béni Jacob, si Dieu a béni Manassé et le reste, laissez-moi vous dire qu'il veut vous guérir. Alors n'ayez pas un cœur blindé. Seigneur, je suis là, je suis devant toi. On peut se recueillir? Est-ce qu'on peut se recueillir? Parce que vous savez, on peut venir aux réunions le cœur fermé. Je sais de quoi je parle. On peut venir à l'église le cœur dur, blindé. Mais moi, je veux un cep délicieux. Alléluia. Qui c'est qui a envie d'être du bon vin pour le Seigneur? Un sujet de joie. Une vie nouvelle communiquée par le Seigneur. Un cep de qualité, un cep d'exception même. Il faut que le Seigneur soit en moi. Mes frères et sœurs, on va prendre le pain et le vin. C'est important. C'est un moyen d'être guéri. Peut-être ça ne va pas se faire maintenant. Peut-être ça va se faire ce soir. Plutôt que de regarder la télé, j'en sais rien. Je veux me retrouver seul et je vais reprendre ces notes. Je vais les reprendre. Qu'est-ce que c'est qui a fait ça dans ma vie? Qu'est-ce que c'est? Oui, appelle ton mari. Mets ta vie en règle. Mes frères et sœurs, notre Dieu, il est vivant. Et croyez-moi, il ne nous parle pas de guérison pour nous parler de guérison. S'il nous parle de guérison, si je suis inspiré. Bon, si la prédication, ça vient de moi. Bon, c'est la parole, c'est bien. Mais si ça vient de Dieu, c'est clair, Dieu veut guérir. Guéris mon âme. Et Dieu vous guérira. Ce n'est pas possible autrement. Mais allez au fond des choses. Allons au fond des choses. Allons-y. À partir d'aujourd'hui, allons-y. Et Dieu trouvera des guerriers, oui, des guerrières. Levez-vous, mes frères et sœurs, vous qui êtes baptisés par immersion. Mais levez-vous, vraiment. Vous savez, des fois, on se lève devant Dieu, mais avec reconnaissance. Levez-vous maintenant. Mais levez-vous avec cœur. Regardez comment Dieu a été vers Élie. T'as vu ? Je ne veux pas humaniser Dieu parce que ce ne serait pas bien. Mais regardez le cœur de Dieu qui est content. T'as vu, Jacob ? Moi, je l'aurais, franchement, Jacob, je l'aurais annulé, enlevé du royaume. Sûr, je me connais, je l'aurais exclu du royaume. Mais Dieu dit, tu as vu ? Et mon frère, si tu t'humilies, le regard de Dieu va se réjouir. Parce que tu vas être guéri. Et Dieu ne fera pas venir le malheur. Dieu fera venir la bénédiction. C'est une loi. Dieu fait grâce aux humbles. Alors prenons ce pain, ce vin, pas d'une manière légère, superficielle. Prenons-le en réalisant que c'est Jésus qui a institué la scène. Pour qu'on dise, mais Seigneur, tu as versé ton sang a coulé, la rédemption, la bénédiction, elle est encore présente. Ton corps a été brisé, ce bout de pain, c'est pas un bout de pain. Tout à l'heure, c'était une flûte, une baguette. Ça représente le corps de Christ, uni. Oui, Seigneur, guéris mon âme, et il vous guérira.